Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
L'autre monde des séries. Bonjour à tous et toutes. Mon invité aujourd'hui, Benjamin Faux, vient de diriger et de publier avec le journaliste Niels C. Hall et une vingtaine d'autres plumes la réédition de leur colossal dictionnaire des séries télévisées. Colossal parce que le volume fait plus de 1000 pages et contient les notices de plus de 4000 séries. Séries de tous les pays qui ont pour seul point commun d'avoir été diffusées en France. Cette nouvelle édition a été augmentée de plus de 900 séries car la production sérielle est désormais devenue une industrie à part entière. Il fallait donc s'y retrouver dans ce foisonnement. Le dictionnaire des séries est un formidable outil pour tout savoir sur les séries, mais il n'est pas que ça. Il est aussi une somme critique. Il rappelle que les séries sont du matériau filmé et des œuvres d'art à part entière, réussies ou ratées, mais toujours susceptibles d'une approche en termes de critique et d'analyse filmique. Prendre les séries au sérieux, c'est en retracer l'histoire propre, en voir la porosité avec le monde du cinéma et s'interroger sur l'apparente âge d'or que nous vivons en ce moment. La perception du format série a beaucoup évolué ces dernières années, contribuant à leur légitimation, y compris auprès d'un public exigeant. Surtout, c'est un format qui permet toutes les audaces, formelles et esthétiques. Et ceux qu'on appelle les showrunners l'ont très bien compris, qui font des séries des lieux d'expérimentation narratif et filmique. Une série dite réaliste peut ainsi se révéler porteuse d'utopie, tandis qu'une série de science-fiction appuiera toute sa trame sur des événements historiques réels. Ce brouillage des repères permet de mesurer combien les séries contemporaines, notamment américaines, sont des laboratoires sociétaux et politiques qui parlent de notre monde, mais aussi d'autres mondes possibles. Bonjour Benjamin Faux.
Bonjour.
Benjamin Faux, vous êtes journaliste, écrivain, traducteur, musicien et sériephile, pour tenter ce néologisme qui rentre dans les mœurs, membre de l'association des critiques de séries. Vous venez de publier, je le disais, une nouvelle édition du dictionnaire des séries télévisées chez Philippe Ray, qui est sorti en 2016, à la fin de l'année 2016. C'est un ouvrage à la fois érudit et drôle dans le ton adopté pour les notices. Et vous avez aussi signé à l'occasion du festival Sériemania un intéressant article en ligne qu'on évoquera et qui s'intitule « De Star Trek à Black Mirror, la science-fiction comme laboratoire des sociétés ». Alors Benjamin Faux, pour rester sur la question du ton de vos notices, les séries, c'est à la fois léger et sérieux comme objet.
Mais oui, mais enfin, comme j'ai toujours vu toutes les fictions de cette façon, en fait, on peut très bien être sérieux et léger en parlant de Proust, comme de Benoît Dumont ou de n'importe quelle série. Enfin, c'est quelque chose. C'est un livre qui est né de façon très informelle. Et on a essayé de garder ce ton de conversation entre amis durant la rédaction.
Et le ton critique aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les notices, pour le dire pour les auditeurs, c'est à la fois une notice technique avec la distribution, la date de diffusion, etc. Mais il y a aussi, à côté de l'inévitable résumé, en tout cas des moments principaux ou de la trame, il y a une analyse et une critique.
Oui, l'idée c'était vraiment d'avoir en parallèle des informations très factuelles, qu'on pourrait retrouver effectivement sur une page Wikipédia, voilà, ou IMDB, ça existe déjà
Internet
en ligne.
Internet Movie Database, mais, qui est le grand site.
Qui est effectivement le site de référence vraiment factuel sur qui fait quoi, qui a fait quoi, etc. Mais on voulait également, en gros, qu'il y ait une voix dans le livre, que ce soit vraiment une voix qui parle et qui raconte aussi en partie sa propre expérience. Donc, moi, je ne crois pas vraiment à l'objectivité absolue dans la critique, dans la critique de fiction, c'est pas possible. Donc, effectivement, dans cette voie, il y a des choses qui peuvent parfois, on peut se retrouver en accord avec l'auteur, on peut se retrouver en désaccord avec l'auteur, et je considère que c'est aussi valable et aussi intéressant d'être en désaccord avec un auteur, avec un critique, on va dire. Et voilà, on s'est retrouvé là-dessus, on voulait vraiment quelque chose de vivant. Quitte parfois, effectivement, à être un peu léger, parfois, à être drôle. On essaye d'être drôle. Sans jamais, bien sûr, laisser de côté l'exactitude des faits concrets.
Et puis il y a des séries qui n'appellent pas non plus des notices très développées, parce que c'est quand même des séries relativement mineures. Ce qui est intéressant aussi, Benjamin Faux, c'est le fait d'opter, à l'heure d'Internet, pour un objet livre, et je le disais, un bel objet, un gros objet qui fait plus de 1000 pages. Il y a la vocation d'ancrer quelque chose dans le papier.
Oui, parce que ça vient en partie de notre culture. Niels et moi-même, on, on est des gens du papier, on a commencé à s'intéresser à la critique avant Internet. Et du coup, on a grandi. Alors, on a un parcours un peu différent. Lui vient plutôt du cinéma et des livres, et moi, je viens plutôt de la musique et des livres. Lui, je sais que sa grande référence, c'était le dictionnaire de Tullard.
Ouais, le dictionnaire du cinéma et le dictionnaire des films.
Moi, j'avais en tête le Assayas, le dictionnaire du rock. Et donc, le format s'est imposé comme ça. Le format du livre s'est imposé comme ça.
Il fallait faire le point, mais en même temps, alors comme la production sérielle est devenue massive, la nouvelle réédition, là, inclut 900 séries supplémentaires.
Exactement.
Quelque chose de prometteur, quand même, dans cette entreprise.
Là, ça va même être difficile à gérer pour l'avenir, puisque là, on est un peu à un moment, on est à un tournant. Et là, on ne sait vraiment plus comment continuer à présenter notre travail dans un format livre. En tout cas, on voulait aussi quelque chose qui ne soit pas trop cher. Donc voilà, là, s'il y a une prochaine mise à jour, ce sera en deux volumes, ça va être un peu compliqué. Voilà, on n'en sait pas trop, on cherche d'autres.
Bon, on va dire que celui-là c'est d'autres formats, mais celui-là fait étape. On va écouter le générique d'une série des années 80 dont on discutera ensuite, qui s'appelle Hill Street Blues. De l'homme, l'autre bande des séries, nous sommes en compagnie de Benjamin Faux. Alors, sur cette série, le Street Blues, qui a été assez mal diffusée, si j'en crois,
en France,
ce que vous dites, je vous cite quand même, aucune série, pour montrer un peu l'importance de cette série, aucune série n'a redéfini la manière d'écrire et de filmer les fictions sérielles comme l'a fait Steven Bochco avec Hill Street Blues. Est-ce qu'on peut dire que c'est une série qui a pavé la voie aux séries dites ethnographiques ou documentaristes, type aujourd'hui The Wire, par exemple?
Complètement, parce que c'est vraiment une série qui a changer la façon dont on raconte les histoires dans les séries, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui ont été inventées dans les Street Blues. Le casting choral, c'est-à-dire que il n'y a pas un seul héros qui a des aventures bouclées chaque jour, chaque semaine plutôt, mais toute une panoplie. C'est-à-dire là, le héros, c'était vraiment le commissariat. D'ailleurs, ça a été diffusé en France sous le nom de Capitaine Furio, ce qui est un contresens total, puisque le principe, c'était justement, le capitaine n'est pas le héros de la série, hein, c'est vraiment son commissariat, le personnage. Donc on a eu ça déjà, qui a fait date, et également la façon de raconter plusieurs histoires en même temps, sur des temporalités différentes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les arcs narratifs. Un arc qui peut être conclu sur un seul épisode, un autre qui peut faire toute la saison, certains qui faisaient une demi-saison, etc. Qui permettait de mélanger les registres. C'est quelque chose qui, pour nous, maintenant, s'est rentré totalement dans les mœurs, parce qu'on a eu Urgence, on a toutes les séries depuis, en fait, se basent sur Hill Street Blues, sur la façon de raconter l'histoire de Hill Street Blues.
Avec aussi des personnages, Benjamin Faux, qui peuvent mourir en cours de route. Dans Hill Street Blues, on peut s'attacher à un personnage qui finalement ne sera pas un personnage récurrent et qui disparaît au bout d'une saison.
Oui, justement, parce qu'on n'est plus tenu par la temporalité des séries auparavant qui étaient très resserrées. Les gens vivent vraiment au sens large. Ils peuvent effectivement disparaître en cours de route. Ils peuvent changer de vie. C'est quelque chose qui est effectivement n'était pas habituel. Maintenant, on est habitué évidemment aux disparitions de héros ou d'héroïnes, etc. Mais voilà, à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire, totalement.
D'accord. Et c'est, bon, disparition qui continue quand même de faire scandale et d'agiter les spectateurs. Oui. Dans votre dictionnaire, vous évoquez alors justement l'idée dans ces années 80 d'un second âge d'or, d'un moment où les séries se réinventent. Donc avec Hill Street Blues, mais aussi avec une série médicale moins connue en France. Et moi, je l'ai découverte en lisant votre dictionnaire, qui s'appelle Saint Elsewhere. Alors, en quoi, qu'il y a une série voilà, qui se passe dans un hôpital, vous allez nous en dire un mot, mais en quoi Saint Elsewhere est-elle aussi, à sa manière, une petite révolution télévisuelle, Benjamin Faux?
C'était l'équivalent de Hill Street Blues, mais pour le monde médical, c'est à peu près ça. Avant, en gros, il y avait deux modèles de médecins à la télévision américaine, donc à la télévision. Il y avait le gentil médecin très, très propre sur lui, très beau, enfin, à la fois beau et bon. C'était Richard Chamberlain dans The Young Dr. Kildare. Et il y avait un autre modèle qui était le bourru mais génial. C'était le Dr. House de l'époque, ouais. C'était Ben Casey. Et il y avait déjà ces deux. Voilà, mais c'était vraiment. C'était des héros. Et Saint Elsewhere, c'est un peu le même principe. Le héros ne sont plus les personnages vraiment, c'est l'hôpital, c'est la société dans laquelle l'hôpital s'inscrit. Parce qu'effectivement, du coup, on s'est rendu compte que comme un commissariat, un hôpital, c'est la plaque tournante pour la société, pour la ville qui est autour de lui, hein, qui est construite autour de lui. Et tous les personnages s'articulaient de manière totalement voilà, intriquée, mais surprenante. Et effectivement, c'est la première série où un des personnages principaux a commis un meurtre. Il a été en prison. Enfin voilà, il y a toute une histoire là-dessus, non? Mais c'était censé être un héros, entre guillemets. Et puis, voilà, drame, etc.
D'accord.
Donc ça coupait vraiment, c'est pareil, c'est le même système que les Street Blues, ça coupait vraiment avec les habitudes de la télévision des années 70.
Oui, 70, dans les modes de narration. Et alors, cette série a été créée, je parlais du showrunner, hein, qui est l'équivalent de, enfin, il n'y a pas de traduction exacte en français, mais qui serait le créateur, l'auteur de la série. C'est Tom Fontana pour Saint Elsewhere, qui est l'homme qui va ensuite créer Oz.
C'est Oz, oui.
Série carcérale, qui sera la première série intégralement financée par HBO, la grande chaîne américaine, et qui est aussi, à sa manière, une série qui lance le troisième âge d'or.
C'est une des premières séries effectivement avoir lancé le troisième âge d'or, qui est l'âge d'or des séries HBO de début des années 2000, avec Les Sopranos, avec Six Feet Under, avec The Wire. Et effectivement, on le retrouve à tous les niveaux. C'était un travail qu'il a toujours mené, qui est vraiment un travail de volonté de réalisme et de discours social dans ce qui est un format de divertissement, a priori.
Oui, donc avec une gravité assez forte. Alors à côté de cette tradition, on essaie de tisser un peu le fil historique des séries, à côté de cette tradition documentariste, l'autre genre fort, c'est le genre de la science-fiction ou du fantastique, mais qui est un genre en fait beaucoup plus politique qu'il n'y paraît. Dans votre article sur la science-fiction, vous écrivez « Les problématiques des séries de science-fiction sont parmi les plus politiques qui soient. Responsabilité auprès des peuples et des cultures étrangers, capacité des peuples à vivre en paix, réponse collective à apporter dans des conditions extrêmes, comportement de la société face aux transformations technologiques, conséquences d'un libéralisme économique poussé jusqu'à l'absurde, etc. etc. » Alors, une des premières séries de science-fiction qui explore ça, c'est Star Trek, qui est une série beaucoup plus ancienne, qui date de 1966, ouais. Oui. Mais qui contient ce message-là politique.
Ben oui, le message politique de Star Trek est très fort, parce que l'idée de base des personnages de Star Trek, leur idée fondamentale, c'est on a interdiction d'interagir avec les civilisations qu'on explore. On est en pleine exploration, c'est-à-dire c'est vraiment ils sont là pour aller voir ce qu'il y a au-delà du connu, mais surtout si on trouve quelque chose, interdiction totale d'interférer dans les affaires de leur monde. Alors évidemment. On est en 66 et Star Trek continue un petit quelques années après. Le rapport avec ce qui se passe aux USA, au Vietnam, avec l'intervention des USA, est évident. La non-ingérence d'un pays dans une autre culture, dans une culture autre, c'était fondamental pour une série de divertissement comme Star Trek, oui. Et c'était effectivement un commentaire sur l'actualité du temps.
Il y avait un message politique de dire on peut pas sortir des frontières et aller complètement modifier une société complète. Alors il y a ce qu'on appelle un spin-off de Star Trek, c'est-à-dire une série dérivée plus tardive des années 90 qui s'appelle Deep Space Nine, qui est beaucoup moins exploratoire, qui se passe dans une station spatiale.
Oui, parce que justement ils sont bloqués dans une station spatiale, voilà. Et ils doivent faire cohabiter des races, etc., qui ont des histoires de guerre préalable. Enfin voilà, là on est dans une, on est plutôt, c'est pareil, il y a un parallèle politique, mais qui est plutôt un parallèle politique à faire avec l'ex-Yougoslavie ou le Proche-Orient.
Voilà, où il faut gérer des groupes différents, essayer de jouer les émissaires de paix et éviter qu'il y ait une montée catastrophique à la violence, quoi.
Oui.
On va écouter le générique presque psalmodie, en tout cas au début, de Battlestar Galactica version 2004. L'autre monde des séries, nous sommes en compagnie de Benjamin Faux. Benjamin Faux, à propos de Battlestar Galactica, version 2004, parce que c'est le reboot d'une première série, vous écrivez dans votre dictionnaire, on retrouve sans cesse au fil des épisodes les bonnes vieilles oppositions qui structurent la plupart des fictions politiques, les valeurs, l'éthique, contre le pragmatisme, la politique, le religieux contre le laïque, la démocratie contre l'autocratie, etc. On est en présence avec Battlestar Galactica d'une grande série politique.
Oui, parce que l'idée de base était assez simple. C'était l'idée de base de la première série également. C'est simplement une race d'androïdes intelligente a quasiment anéanti la race humaine. Il reste plus que quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes qui dérivent dans une flotte de vaisseaux spatiaux protégés par les militaires, par un vaisseau militaire, le Battlestar Galactica. Et dans la version originale, c'était un peu un prétexte pour aller de un peu à la Star Trek, pour aller de planète en planète, et puis voilà, ça dépassait pas trop ça. Mais la série de 2004 est allée beaucoup beaucoup plus loin. Elle a vraiment proposé une interprétation spirituelle, une interprétation politique également, puisque c'est après tout c'est l'état d'urgence absolue. Donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire en état d'urgence absolu, parce qu'on peut difficilement aller plus loin que ça. Et il y a des épisodes entiers qui sont effectivement des épisodes sur la responsabilité, voilà, la prise de décision. Enfin c'est une série très lourde, très prenante, et c'est une série fondamentale, parce que c'est une des séries qui a fait vraiment connaître la télévision de science-fiction au-delà des amateurs de science-fiction, qui est vraiment, voilà, un peu comme Game of Thrones a fait découvrir la fantasy à un public qui ne la connaissait pas du tout ou qui ne la regardait pas d'habitude. Battlestar Galactica fait ça avec la SF.
C'est Benjamin Faux, une série qui est souvent qualifiée, Battlestar Galactica, de grande série post-11 septembre, parce qu'effectivement, elle va poser un certain nombre de questions que le 11 septembre avait pu provoquer, c'est-à-dire la question du va-t-on vers plus de militaires pour gérer l'état d'urgence? Qu'est-ce qui relève du terrorisme? Qu'est-ce qui relève de la défense? Comment articuler les rapports entre le leader politique et le leader militaire? Et au fond, la série va proposer des choses peut-être différentes de ce qui s'est passé dans le monde réel après le 11 septembre.
Oui, bien entendu, c'est l'intérêt de la fiction, c'est de pouvoir prendre un point de départ ancré dans le réel et de proposer d'autres solutions ou de changer des éléments et de regarder comment ça se passe. En général, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des dystopies. C'est-à-dire, c'est des mondes où ça se passe mal, tout simplement. Hein, c'est à la Orwell ou au meilleur des mondes, contrairement à ce que le titre l'indique. Bah voilà, ce sont des histoires où effectivement quelque chose s'est mal passé, mais on part toujours de prémices qui sont des prémices du monde réel.
Alors, on va rester sur cette question des dystopies, et parce que il y a dans la production actuelle beaucoup de séries qui sont des dystopies. Je pense à The Walking Dead où le monde est livré aux zombies, The Leftovers où il s'est passé une disparition collective inexpliquée, une série peut-être moins connue en France qui s'appelle The 100 où on va envoyer des jeunes mineurs sur une planète éventuellement colonisable. Comment vous voyez-vous cette tendance, Benjamin Faux, cette tendance aux dystopies? On est dans un SI, mais c'est le SI, SI tout allait mal.
Oui, c'est le SI catastrophiste, mais c'est une façon de réfléchir à la façon dont on peut se remettre après un traumatisme, je pense. Même au niveau d'un pays ou d'une société. Toutes les fictions post 11 septembre sont nées de là. C'est maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui peut se passer, est-ce qu'on va aller vraiment dans, enfin, The Walking Dead, c'est ça, hein, c'est vraiment l'homme est un loup pour l'homme, le plus gros danger c'est pas vraiment les zombies, ce sont les hommes eux-mêmes et leur relation interhumaine. C'est plusieurs façons de le voir, mais c'est toujours la même chose. On part d'un bouleversement, d'un traumatisme, et on regarde comment des gens comme nous passe au-delà.
Ce sont des séries assez sombres, donc on a peut-être le sentiment que elles reflètent aussi une forme de pessimisme, alors de pessimisme de l'époque peut-être, et du coup elles sont aussi marquées par des formes de violence, notamment dans The Walking Dead. Ça aussi c'est peut-être assez nouveau. Il y a des gens qui sont par exemple très incommodés de la violence dans Game of Thrones, pour prendre quelque chose de très différent. Comment vous voyez cette irruption de la violence, et y compris peut-être dans sa dimension un peu subversive à la télévision américaine?
Après, là, je vais parler pour moi, hein, je ne crois pas du tout à la dimension subversive de la violence. Je pense que c'est vraiment du spectacle. Et que la même histoire sans montrer de violence serait aussi efficace. Après, voilà. Donc, je ne suis pas toujours les propositions sur Game of Thrones. Après, je pense que, bon, pour le coup, l'ampleur romanesque me fait oublier les moments que j'aime moins. Il y a d'autres séries, comme beaucoup de séries Stars, qui est une chaîne de télévision qui se fait un peu une spécialité quand même dans une violence assez exacerbée, un peu tout à n'importe quel propos. Voilà, ça m'intéresse moins. Je trouve ça assez faible à un niveau narratif et
ça fait un peu thématique. Bourrage de
oui,
pour relancer un peu l'action à bon marché.
Voilà, c'est pour passer le temps et enfin moi je sais pas, mais en tout cas la violence vraiment exacerbée ou très visuelle, très graphique, ça a tendance à me désintéresser, j'ai tendance à décrocher un petit peu et à penser à autre chose.
À prendre de la distance.
Mais après, là, je parle pour moi encore.
Absolument, c'est vous l'invité, on peut y aller. Dans cette dimension assez sombre aussi, l'une des solutions ou l'une des lumières ou des bouts de tunnel possibles que les séries explorent, c'est la question de la spiritualité ou de la solution spirituelle. Battlestar Galactica est traversée par cette dimension spirituelle, de la même façon The Leftovers, qui est une série en cours de diffusion, est aussi traversé par cette dimension spirituelle. Est-ce qu'on peut en dire un mot?
Le Leftovers, qui est une excellente série, et aussi, alors on ne connaît pas la fin encore, donc on ne sait pas encore comment ça va se résoudre, mais c'est une série qui parle effectivement d'un peuple, d'une planète qui a vécu un traumatisme, puisque 10% de cette population a disparu.
C'est la Terre. Hein,
donc la Terre, oui, c'est la Terre. Et donc voilà, on a à faire le deuil de 10% de la population, et chacun à sa façon, donc totalement dysfonctionnel ou moins dysfonctionnel, selon le cas. Et effectivement, il y a forcément une problématique spirituelle, puisque un événement de cette importance, un événement qu'on comprend aussi peu, on a forcément des explications spirituelles.
On se demande s'ils ont été rappelés à Dieu, si ce sont les meilleurs qui sont partis.
Il y a l'idée de rapture qui est dans la culture américaine, pas trop en Europe, mais vraiment qui est en fait que effectivement la première étape avant la fin des temps, c'est Dieu rappelle les meilleurs auprès de lui. Et Battlestar Galactica, c'est un peu différent, mais il y a aussi une, effectivement la fin de la série, alors que je vais pas spoiler parce que c'est compliqué, ouais. Mais je vais pas dévoiler les éléments parce que ce sont des éléments majeurs de la fin de série, mais ça donne des ça donne une interprétation même de la naissance de l'humanité, tout simplement.
Donc ça va relativement loin dans le message.
Voilà, et avec une intervention non humaine, une intervention divine. Il y a une intervention divine à un moment voilà.
Bon, ça ouvre quelque chose. Alors beaucoup moins spirituel, enfin beaucoup moins dans la spiritualité, mais très forte aussi, une autre série dystopique, Black Mirror, série britannique, qui va pousser à ses limites la société technologique dans laquelle nous vivons et qui va mettre en scène une société où les individus sont dominés, martyrisés, écrasés par une forme de totalitarisme technologique.
Black Mirror, ce qu'on appelle une anthologie, c'est une forme qu'on pratiquait beaucoup dans les années 50 et 60. C'est-à-dire que c'est une série, mais c'est une série. L'unité de la série est thématique. Ce sont pas les mêmes personnages. C'est vraiment une unité thématique. Et chaque épisode raconte une histoire totalement fermée, avec un début, milieu et fin, dans un univers différent d'ailleurs, puisque chaque épisode se passe vraiment dans une version de la Terre différente. Et Black Mirror, ça essaie de montrer ce qui peut se passer. Si on rate complètement l'évolution technologique, c'est-à-dire pour une, alors il y a plein de propositions différentes, mais c'est passionnant là-dessus. Effectivement, c'est la solution du pire à chaque fois. C'est ce qui peut se passer de pire, mais c'est passionnant parce que du coup, c'est un peu des points d'exclamation et des points des éléments de réflexion, quoi, sur notre quotidien. On peut pas regarder Facebook ou Twitter de la même façon après un épisode de Black Mirror.
Oui, notamment le premier épisode de la saison 3, qui est une société où tout le monde se note en permanence, comme on peut noter un chauffeur de taxi, un restaurant, sauf que ça produit des effets parce que les gens qui sont mal notés commencent à avoir moins de droits ou à accéder à moins de choses dans la société. Donc là, il y a une manière de prendre l'air du temps, voire d'inquiéter volontairement en disant, si on ne fait rien dans notre société, on peut aller vers cette forme de totalitarisme.
Oui, c'est quelque chose qui a... Enfin, ça a même été réalisé dans l'entreprise où tous les employés notaient les autres employés, il y avait une sorte de classement. C'était une dérive, hein, on est d'accord, hein, c'était totalement... mais l'exploitation de dérives à travers des histoires de personnes, hein. Ce sont quand même à chaque fois, c'est incarné, ce sont des personnes, et comme toutes les bonnes séries, on s'intéresse aux personnes, en plus de s'intéresser au fond. Ce sont des petites histoires comme ça qui partent d'une idée qui nous emmène loin a priori de notre société, mais finalement avec un point de départ totalement réel.
Mais qui est toujours aussi l'idée d'une inquiétude sur la déshumanisation, c'est-à-dire comme dans The Walking Dead, la fin de l'homme, là l'homme écrasé complètement par une technologie et déshumanisé dans ses rapports aux autres, dans Black Mirror aussi.
Oui, en général, le méchant c'est souvent c'est souvent un robot ou une intelligence artificielle.
Ouais, une machine qui
créée par l'homme, mais qui le dépasse et qui n'arrive plus à maîtriser. C'est la grande peur, je pense, de la fiction, même de la fiction de SF depuis toujours. C'est la créature qui échappe au contrôle du créateur.
Ouais, c'est le golem ou Frankenstein. Quelle est votre série préférée, Benjamin Faux? La question toujours difficile.
Alors c'est compliqué. Alors en général, je réponds The Wire parce que ça reste la plus riche. Enfin, je peux encore la revoir. Je trouve ça d'une richesse, d'une profondeur et d'une ambition hallucinante et passionnante. Elle dit tellement de choses sur la société actuelle que on pourrait vraiment en parler pendant des heures. Je crois que c'est une des séries sur laquelle il y a eu le plus de textes écrits, enfin de séminaires tenus, etc. C'est de livres publiés, mais ça vaut le coup vraiment. C'est d'une richesse hallucinante. Mais après, il y a d'autres séries que j'aime beaucoup. Attaché aux prisonniers ou à Chemin en botte de cuir ou Wall Street Blues par exemple.
Le premier âge d'or peut-être ou le deuxième âge d'or, les séries des années 60-80. Merci beaucoup de votre présence, Benjamin Fauve. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de votre ouvrage co-dirigé donc avec Niels C. Hall, Dictionnaire des séries télévisées, paru en 2016 aux éditions Philippe Ray. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt.